Des choses que j'ai dites la semaine dernière, parce que j'ai trouvé une citation qui peut vous intéresser pendant la semaine. J'ai parlé du fait que dans le haïku, il passait toujours un ou deux, ce que j'ai appelé des objets sensuels, c'est-à-dire des objets qu'on peut toucher, et j'ai donné à cette catégorie d'objets de discours, en quelque sorte, un nom latin, tangibile, ce qu'on peut toucher, et au pluriel, tangibilia, un neutre pluriel, qui veut dire donc les choses qu'on peut toucher. Et le hasard a fait que j'ai retrouvé une note de Proust dans des cahiers, puisque vous savez que maintenant on commence à mettre à jour des cahiers de Proust, à propos des goûts d'Albertine pour la mode féminine, et du thème des cadeaux que le narrateur veut lui donner, il y a une note additionnelle qui, justement, pose très bien le problème des tangibilia. Car Proust dit, il se dit à lui-même, n'est-ce pas, c'est une note de travail, « Nota bene, capitalissime », il emploie souvent ce mot pour lui-même, très important, « capitalissime », « chaque fois que je dirai distraction, richesse, plaisir », mettre quelque chose de concret, ça qui est très beau. Soulier à brillant, comme Madame de Guermantes, écharpe, comme Monsieur de Guermantes, plan pour une auto, pour un yacht. Donc, vous savez aussi ce grand souci des tangibilia, c'est-à-dire des objets, ce que j'appelle des objets sensuels, des objets qu'on peut toucher. Voilà pour le petit supplément. Quant au cours même, j'étais arrivé à un groupe de réflexion sur ce que j'appelle le pathos du haïku, sans aucune nuance péjorative, c'est-à-dire le domaine des affects, de l'affect, et j'étais en train de parler de la manifestation de l'affect sur le visage, en particulier. Et j'ai annoncé ici une digression que je vais faire, une petite digression que je vais faire, concernant l'être vivant qui est par définition non humain et qui est l'animal. Je voudrais d'abord signaler qu'il paraît, mais je n'ai aucune précision à ce sujet, on pourra chercher, que certaines théories tout à fait modernes conduisent à penser que les plantes elles-mêmes ont de l'affect et que même en un sens, les plantes ne seraient que de l'affect. Pour les animaux, c'est flagrant. Les animaux, certains animaux dont je vais parler, donnent le spectacle, je dirais, fascinant de l'affect pur, de l'affect sans mélange. Et c'est pour cette raison que, personnellement, les chiens, notamment, m'intéressent et que les chiens me passionnent. Parce qu'ils sont de l'affect pur. Un affect sans raison, sans redans, sans inconscient, sans masque. En eux, l'affect se voit dans son absolue immédiateté et mobilité. Observez la queue d'un chien, son agitation suit les sollicitations de l'affect avec une rapidité de nuance dont aucun visage humain, si mobile soit-il, ne peut approcher la subtilité. Et c'est pour ça que les chiens, personnellement, me fascinent. Parce que ce sont des animaux, évidemment, très anthropomorphes, puisqu'ils vivent sans cesse avec l'homme. Ils sont donc imbibés, si je puis dire, d'hommes. Ils sont imbibés d'hominité. Et pourtant, ce sont les hommes, ce sont des hommes, mais sans la raison et bien sûr sans la folie. Ils sont purement de l'affect. Vous pourriez imaginer, selon une imagination de science-fiction, hein, un homme, mais la science-fiction ne se fait pas de ces choses-là, je ne crois pas, mais c'est dommage. On pourrait imaginer un homme qui aurait la puissance d'expression d'affect d'un chien. Un nouvel homme, au fond, qui aurait la puissance d'expression d'affect d'un chien, et dont l'affect serait à la lettre immédiate, avec un tiret, non médiate, sans médiation, et cela à chaque seconde. Vous imaginez quel délire sur les visages, quel délire dans la communication, si tous les affects étaient immédiats au fur et à mesure qu'ils se produisaient, comme c'est le cas finalement pour les chiens. Et je dirais que je peux personnellement regarder un chien pendant des heures, et je regrette toujours énormément de ne pouvoir en avoir un. J'en ai eu, maintenant ça poserait trop de problèmes, mais c'est un regret permanent pour moi, comme le regret d'être privé, je dirais, d'une distraction subtile, au sens fort du terme. Hein. Et je pense que c'est une erreur de la part de ceux qui, par dégoût, mépris de la sensiblerie, rejettent l'amour des chiens. C'est parce que peut-être le problème est mal posé et que chacun pense que son animal, l'animal qu'il possède, est affect pour soi, pour lui-même. Et c'est sans doute très agréable et peut-être même nécessaire de se croire aimé d'un chien, par exemple. Mais une seconde de réflexion, bien sûr, doit nous convaincre que je ne suis pas aimé en moi, en soi, pour moi-même, et que c'est ma place, et non ma psyché, qui est objet d'affect chez l'animal. Et pourtant, il y a bien sûr chez nous un narcissisme si tenace qu'on est toujours étonné de voir au dehors des chiens, éperdus d'adoration, de fidélité, d'affection, pour des maîtres apparemment vulgaires et brutaux, dont nous disons qu'ils ne le méritent pas. Ça nous étonne toujours beaucoup, et on le pense avec amertume. Et on ne comprend pas les chiens, à ce moment-là. Eh bien, dans ce spectacle de l'affect, je pense que les chiens, je ne connais pas bien d'autres animaux, mais je pense que les chiens ont un rôle, disons, de grande vedette. Et ce qui m'intéresse, c'est, je le répète, l'affect en soi. L'affect diffus, éperdu, affolé. Et avoir un chien, c'est effectivement un spectacle continuel d'affect. Et il faudrait d'ailleurs là distinguer l'affectif de l'affectueux. Ah, on dit toujours que les chiens sont affectueux. Je dirais plus, probablement plus précisément, qu'ils sont affectifs plutôt qu'affectueux. Et naturellement, je ne veux pas entrer dans la grande bataille mythique des chiens et des chats. Qu'est-ce qui est supérieur, les chiens ou les chats? Ça fait partie des grands couples d'opposition, par exemple Tolstoï-Dostoïevski, par exemple. Quel est le mieux? Bon, je ne trancherai pas. Je dirais qu'il se peut évidemment que l'affectif du chat soit plus masqué. Et par là même, peut-être qu'un chat, ça ressemble plus qu'un chien à un homme entier, affect et détour de l'affect, ou à une femme entière, puisque c'est la comparaison habituelle entre la chatte et la femme. Il y a toute une mythologie là-dessus, jusque dans Freud, qui en a parlé, et d'où peut-être effectivement ceci, que le chat a l'air de choisir davantage que le chien, d'où par exemple un roman comme La chatte de Colette. Voilà, j'ai fait cette petite digression pour décrocher, je dirais, l'animal de la bête. L'animal est affect, il est affect pur, d'ailleurs l'une des formulations, disons, de style lacanien, c'est que l'animal a un imaginaire, il n'a pas de symbolique, il n'a pas de symbolique, il n'est pas dans le symbolique, mais il a un imaginaire. Il est dans l'imaginaire, il a un imaginaire. Et c'est pour cela sans doute qu'il donne souvent l'impression d'avoir une âme, il n'y a pas d'autre mot, une âme plus que les hommes. Au fond, si on veut avoir le sentiment, la certitude de l'âme, il faut plutôt regarder des animaux que des hommes. Et aussi, l'animal permet de faire sentir ce qu'est l'affectif pur, l'affectif moiré, comme une moire, aux inflexions rapides. Et il faut toujours à ce moment-là penser à la queue du chien, qui est comme son super visage. Un mode d'affectif très typé et assez rare en Occident, que celui de l'animal. Et par exemple, il me paraît assez frappant que chez un auteur hypersensible à tous les niveaux de sa personne et de son art, comme Proust, à ma connaissance, enfin vous savez, on peut toujours se tromper sur l'œuvre de Proust parce qu'elle est très grande, très immense, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'animal dans l'œuvre de Proust, ou en tout cas, il n'y a pas d'animal notable. Tandis que dans le haïku, il y a de très nombreux animaux, et ces animaux du haïku sont souvent tendrement regardés, avec une sorte de tendresse. Donc, je quitte ma digression et je continue, le haïku est imbibé d'un émoi ténu. C'est pas, j'aime mieux le mot émoi que le mot émotion. C'est trop fort, trop pathétique, trop mélodramatique. Il y a un émoi très ténu, très moiré, très subtil, très mobile dans le haïku. Or, cet émoi, cette émotion, cet émoi du haïku a sa marque morphologique, sa marque discursive ou grammaticale, si vous voulez. En effet, le haïku emploie fréquemment et d'une façon très codée, comme toujours, avec les Japonais, une syllabe exclamative qui donne en plus l'avantage de pouvoir servir éventuellement de cheville dans le vers. Et cette syllabe exclamative a un nom en japonais, ça s'appelle le kireji. K-I-R-E-J-I. Le kireji, c'est une sorte de ponctuation poétique, comme dans une partition musicale, on met à certains moments forte, crescendo, piano, n'est-ce pas, sous le texte musical. Bien, le kireji, c'est un peu une exclamation mise dans les vers et qui indique une sorte de conduite ou d'expression de l'émotion à ce moment-là. Et c'est, disons, une marque par laquelle le compositeur de haïku, on peut dire vraiment compositeur, presque plus qu'auteur, fait allusion à son esprit. Au temps classique du haïku, c'est-à-dire vers le XVIIe siècle, il paraît qu'il y avait 18 kireji. Par exemple, il y avait le kireji Ya, Y-A. Ya, qu'on traduit vaguement en français par A, A-H-O, O-H, point d'exclamation. Et donc qui indique l'admiration, le doute, la question. Un second kireji, c'était le Keri, K-E-R-I, qui indiquait plutôt que le temps a passé, quelque chose est fini, de l'émotion ou de l'admiration sont tombées. Et le kéri, par exemple, par conséquent, servait à alourdir le poème, n'est-ce pas, à alourdir le vers, faisait entendre en quelque sorte le poids de la neige, par exemple, sur un paysage. Il y avait troisièmement le kana, K-A-N-A, qui était un kireji très commun, sans signification précise, et qui soulignait l'émotion du mot qui précédait. Alors, moi, comme toujours, ce que je trouve très beau dans cet art, c'est que ça a beau d'être très codé, puisqu'on dit il y avait 18 kireji, etc., ça garde une portée émotionnelle nécessaire. Et l'un des traducteurs de haïku, dont je me suis servi beaucoup, qui est Koyo, a dit qu'il était opposé, quand il traduisait des haïkus, il ne voulait pas la traduction O-A, n'est-ce pas, O accent, O point d'exclamation, A point d'exclamation, parce que il trouvait ça vide et bête. Mais personnellement, je ne suis pas de cet avis. J'aime assez ces interjections très littéraires, et il me semble que ça dérédit la syntaxe. Ça fait comme un brusque affaissement de la syntaxe, un oubli de ce qu'on appelle le tétique, c'est-à-dire la structure logique de la phrase qui veut qu'il y ait un sujet et un prédicat, hein, ou un sujet et un attribut, qu'on appelle le tétique. Le qui régit en français, OA, ça permet d'atténuer, d'alléger le tétique et donc d'alléger le contrôle de la loi syntaxique sujet-prédicat. Ça renvoie tout de même, même si c'est très banal, ça renvoie à une sorte de bref sanglot ou de bref soupir comme en musique. Par exemple, il y a un haïku très célèbre de Bachot qui est peut-être le haïku le plus célèbre de toute la littérature haïkiste, qui est le numéro 30. Un vieux marécage, une grenouille y saute, oh le bruit de l'eau, oh le bruit de l'eau. Alors on a dit que ce haïku était peut-être le compte-rendu d'un satori, pas d'une secousse mentale, d'un éveil mental, et dans ce cas le qui régit, c'est-à-dire oh, oh le bruit de l'eau, serait le moment du satori, c'est-à-dire le passage à vide du langage finalement. Dans la mesure où le qui régit est vide de sens, c'est comme si on faisait passer à vide le langage. Alors, chez nous, est-ce qu'il y a des qui régit, des équivalents de qui régit? Eh bien, le plus proche du haïku, c'est effectivement certaines inflexions poétiques ou de la poésie ancienne, enfin, pas complètement moderne, n'est-ce pas, où il y a O, par exemple, dans Verlaine, oh le bruit de la pluie. Je trouve ça beau et c'est ce qui se rapproche le plus du qui régit. Et je voudrais citer une phrase de Proust dans une lettre, je ne sais plus à qui, où il dit vous pensez qu'il s'agit de subtilité, oh non, vous pensez qu'il s'agit de subtilité, oh non, je vous assure, mais de réalité au contraire. Eh bien, le « oh non » est pour moi un très bon qui régit, car il introduit une protestation émotionnelle dans l'argument, c'est-à-dire que c'est tout le corps à ce moment-là qui proteste que le subtil est douloureux et donc que le subtil est réel. « Oh non, je vous assure, mais des réalités de réalité au contraire. » Maintenant, un mot sur ce que j'appellerais l'égotisme du haïku. Alors là, c'est le moment où on va faire pendant une minute ou une minute et demie un tout petit peu d'histoire du haïku. On ne l'a pas fait jusqu'à présent, ce n'était pas notre propos du tout. Mais je voudrais rappeler qu'à l'origine, chez les lettrés japonais, il y a eu d'abord un poème composite de 31 syllabes en deux versets. Ou en deux strophes, si vous voulez. 5, 7, 5, ça sera notre haïku, bien sûr, plus 7, 7, 77. Et ce poème composite est devenu un passe-temps de société sous le nom japonais, bien sûr, de Renga, R-E-N-G-A. Et il s'agissait d'un concours entre deux groupes, un jeu de salon, n'est-ce pas, si vous voulez, une société. Un concours entre deux groupes sur un thème donné par un meneur de jeu. Un concours avec des calembours, des pointes pour embarrasser l'adversaire. Et l'improvisateur donnait les trois premiers vers et l'interlocuteur, ou le groupe interlocuteur, devait imaginer les deux vers suivants. C'était donc un jeu qui pouvait être sans fin, chacun pouvant y entrer. Et donc, c'est constitué ainsi dans la société de cette époque-là, vers la fin du Moyen Âge, des poèmes en chaîne. On pouvait toujours relancer le poème, c'était un poème infini de structure d'interlocution. Par exemple, au XIVe siècle, il paraît que le renga était pratiqué avec assiduité dans les monastères. Puis, donc, vers le milieu du XVIIe siècle, qui est la grande époque du né et où s'épanouit le haïku, donc il ne faut jamais oublier que Basho, B-A-S-H-O, le grand auteur de haïku, est vraiment à une ou deux années près, je n'ai pas vérifié, mais c'est strictement un contemporain de Racine. Pas oublier ça. Donc vers 1650, il y a une double modification du renga, c'est-à-dire que d'abord, à côté du renga noble, se développe un renga libre, c'est-à-dire très poétique et sans pointe, plus lyrique si vous voulez, qu'on appelait le haikai renga. Haikai renga. Et puis, la seconde modification, c'est que les poètes ont détaché les débuts de renga, c'est-à-dire la petite strophe 5-7-5, en publiant des recueils. Et ces débuts de renga s'appelaient des hoku, H-O-2-K-U. On a donc eu des haikai hoku, c'est-à-dire des hoku libres poétiques, c'est-à-dire des haïkus. Alors, si je raconte ça, c'est pour dire, en forçant un peu les choses, bien sûr, que ce qui est tombé dans l'évolution du poème, c'est le jeu à deux, c'est le dialogue qui est tombé. Et ce qu'on a gardé, c'est, dans le haïku, c'est la notation individuelle, solipsiste, le très court soliloque des trois premiers vers. Autrement dit, l'autre, qui est d'abord répondé et essayé de surclasser le premier, ou l'un, l'autre qui avait une fonction polémique, l'autre, l'interlocuteur qui avait une fonction polémique, celui-là a été éliminé. Et par là même, le poème a perdu tout fonctionnement de combat agonistique. Enfin, il n'y a plus de poésie, de combat. Et on pourrait dire, en forçant à peine les choses, peut-être que le haïku est venu d'un mouvement d'égotisme. On a renvoyé les autres partenaires, qui finalement gênaient le Narcisse, et on a joué tout seul. On a arrêté la chaîne. Dès que je passe dans l'énonciation, on fait un nœud avant que tu ne s'en mêles. Et ça fait un haïku. On a isolé le sujet, on a aboli le conflit, la compétition, et donc on a pacifié l'ego qui, dans le haïku, se retrouve seul et voluptueux au milieu de la création. Je, J-E, est en effet toujours présent dans le haïku, qui est un pur poème de l'énonciation. Et dire qu'il est présent, c'est peu dire. En fait, je articule, il arme toute la sensation. C'est un je-corps. C'est le corps qui est je. J'en ai donné trois exemples ici. 31, 32 et 33. 31. Fraîcheur, j'appuie mon front contre la natte verte. 32. Fraîcheur. Au mur, la plante de mes pieds nus, sieste. 33. Je vis la première neige. Ce matin-là, j'oubliais de laver mon visage. Ces haïkus sont les exemples mêmes de ce que j'ai appelé l'individuation, qui n'est pas l'individu. Le je passe dans le corps dans la sensation, et la sensation dans le moment. C'est le processus d'individuation. Et c'est toujours un sujet qui énonce ouvertement et qui se met dans le tableau. C'est ça. Souvent, le jeu du haïku se met dans le tableau. Et j'en ai donné pour exemple les 34 et 35. 34. Nettoyant une casserole, ride sur l'eau un goéland solitaire. 35. Saison des pluies, nous regardons la pluie, moi et derrière moi, debout, ma femme. C'est là, je crois, un type d'énonciation utile, puisqu'il y a dans les deux cas une scène qu'on voit très bien, avec un acteur dedans, comme dans un tableau réaliste. Et en même temps, cet acteur que je vois dans la scène, c'est moi. Je. C'est très évident dans le 35, n'est-ce pas ? Saison des pluies, nous regardons la pluie, moi et derrière moi, debout, ma femme. Comme jeu numéro 1, je ne peux pas voir ma femme qui est derrière moi, mais comme jeu numéro 2, je vois très bien toute la scène et l'étagement des plans, la pluie, moi et ma femme. C'est donc une énonciation, disons, contradictoire en un sens, ou plus exactement stéréophonique ou stéréoscopique, qui respecte l'étagement des plans. Et on peut dire que ce n'est pas vraiment une scène, mais plutôt un scénario au sens fantasmatique, c'est-à-dire le corps est là, sans que l'énoncé, c'est-à-dire « je », car il ne peut jamais s'agir que de mon corps. Là, le 36, sieste, la main cesse de mouvoir l'éventail. Sieste, la main cesse de mouvoir l'éventail. Donc, ténuité, cerne, microscopie. Dans ce thème de l'égotisme du haïku, il faut tout de même faire remarquer que le haïku n'est pas érotique. Ça n'est pas un poème érotique, ça ne l'est pour ainsi dire jamais. Ou disons que les très rares fois où il est pointé un désir, la subtilité de l'énonciation fait de l'expression de ce désir une extrême complexité. Car il y a plusieurs contraintes qui se mêlent, la contrainte du jeu, la contrainte de la forme brève, la contrainte de la discrétion et la contrainte alors générale de ce que j'appellerais le spécifique du désirable. Par exemple, 37. Le foulard de la fillette, trop bas sur les yeux, un charme fou. Le foulard de la fillette, trop bas sur les yeux. L'être du désir, c'est-à-dire le rapport de l'objet au jeu, est si particulier que ce rapport est souvent un paradoxe. Là, c'est l'un des grands énigmes, enfin, disons, éclaircies dans une certaine mesure par la psychanalyse, et notamment par... Enfin, en tout cas, dont la psychanalyse lacanienne l'a amplement traité, comment se fait-il que parmi des milliers de corps, celui-là, tout d'un coup, vienne me capturer, vienne s'adapter exactement à mon désir? Pourquoi celui-là et pas tel autre? Pas grande énigme anthropologique, humaine. Bon, eh bien, le poème, évidemment, le haïku, dans les rares exemples qu'on en a, va très bien pointer ce paradoxe qui fait que je désire ceci et non pas cela. Et c'est le travail, justement, de la forme littéraire ou de la forme poétique de découvrir et de dire ce paradoxe. Or, ici, dans le haïku, l'art de la fillette trop bas sur les yeux, un charme fou, eh bien, le paradoxe du désir, il est exprimé, il est évidemment dans le trop bas. C'est le trop bas du foulard, le trop bas du foulard, qui me rend fou de désir. Un charme fou. Et on peut le comprendre, puisque d'ailleurs, il y a il y a eu, ou il y a peut-être encore, je ne sais pas, une mode du foulard trop bas pour les femmes. Trop bas sur le front, ou très bas sur le front. Ben, c'est ce que le Bhikkhu disait déjà. Hein. Donc, la marque du jeu dans ce haïku, c'est-à-dire la marque de l'énonciation, c'est l'adverbe « trop ». C'est l'adverbe « trop ». En effet, l'énonciation, ça ne se saisit pas seulement dans des marques morphologiques grossières comme le pronom personnel, n'est-ce pas, « je », mais par exemple, le « trop », c'est une marque d'énonciation. Puisque ça implique une norme, même si je ne dis pas « je », il y a une norme, et je me situe par rapport à cette norme. Et le haïku, donc, quand il s'en mêle, est très bien fait pour pointer la spécificité du désir, c'est-à-dire l'accord individuel qui est rare entre mille de l'objet et du jeu. Et il faut le dire cela parce que cette manière de procéder est tout à fait contraire aux descriptions occidentales classiques du désirable. Si vous prenez par exemple un auteur dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est violemment érotique, comme Sade, il y a beaucoup de descriptions d'objets désirables dans Sade. Mais ces descriptions ne disent jamais en rien le spécial du désir. Dans Sade, il n'y a jamais la spécialité d'un désir. Bon, il y a des catégories très beau, très laid, etc. Mais il n'y a jamais un effort pour décrire la spécialité de l'accord entre un objet et un jeu. C'est-à-dire que dans ça, vous ne trouverez jamais le foulard trop bas. Jamais. Enfin, il faut toujours penser à notre épreuve de commutation, des poèmes sans énonciation. Enfin, sans énonciation directe, et des poèmes de notre culture à nous, et qui en cela, donc, pourraient être presque des haïkus, mais ne le sont pas à cause de cela. Par exemple, dans ces vers, d'ailleurs, fort beaux d'Apollinaire, dont le matériau est presque un matériau de haïku, l'anémone et l'encolie ont poussé dans le jardin où dort la mélancolie. C'est très beau. D'un point de vue français, en tout cas. Mais il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de position du corps. De position explicite du corps. Voilà pour ce groupe de réflexion. Et j'en viens maintenant à un autre groupe de réflexion, c'est rapide d'ailleurs, autour du thème de la discrétion. En effet, avec le haïku, il me semble que nous avons abordé de nouveau le thème, la coloration de ce dont nous nous sommes occupés l'année dernière, à savoir le neutre. Et j'appellerai, dans le champ du haïku, j'appellerai le neutre la discrétion, parce que nous sommes dans l'écriture, c'est-à-dire la suspension époquée de l'effet, de l'emphase, de l'arrogance, de discours. Je voudrais saisir cela sur trois points. Premièrement, chaque haïku me paraît être comme un acte de discrétion. Et précisément, ça se voit très bien dans l'absence, dans le genre haïku, du thème amoureux. Le haïku, c'est un lyrisme, puisque ça dit « je », mais ce lyrisme est silencieux sur l'amour. C'est un lyrisme qui n'est pas amoureux. Koyo cite quelques haïkus où il est question de couple, mais selon une telle distance, une telle discrétion, qu'il s'agit uniquement de petits tableaux vus de très loin et en général avec une pointe d'humour. Par exemple, 38, Pluie de printemps, pesant Cosette, s'en vont, manteau de paille et parapluie. Et 39, le bonze un peu gris, caresse la tête d'un ami, véranda sous la lune. Ce dernier haïku est assez tardif, n'est-ce pas? C'est un haïku de de la première moitié du XXe siècle. Mais dans les deux cas, n'est-ce pas, ça n'est pas l'énonciateur qui est amoureux, c'est un simple spectacle. On dirait donc qu'il y a une incompatibilité entre l'amour et le haïku, et l'amour oblige à parler massivement de soi, et c'est une sorte de mobilisation de l'imaginaire. Or, la règle structurale du haïku est de diviser la confidence au point qu'elle soit sans personnalité. C'est un paradoxe que j'ai déjà signalé. C'est l'opposition entre l'individuation et l'individuel. Or, l'amour, l'état amoureux, rend compact l'individuel, n'est-ce pas ? L'état amoureux est du côté de l'individuel, il n'est pas du côté de l'individuation, qui est l'assomption du moment. L'état amoureux fait consister le moi amoureux, il le rend compact. C'est un développement massif de l'imaginaire et par conséquent, il renforce le moi, tandis que le haïku divise le moi en moment d'individuation. Donc, ça se voit bien dans le fait que dans le haïku, par exemple, il n'y a pas d'impératif. On ne s'adresse jamais à l'autre, à un autre, sous une forme impérative. Et des vers comme ceux que je vais dire de Ronsard, qui sont d'ailleurs très beaux, seraient impossibles dans le haïku. Quand Ronsard écrit « Bégaye en me baisant à l'ivre de Miklose ».« Bégaye en me baisant, en m'embrassant à lèvre de Miklose ». C'est de parler en embrassant. Très beau thème, mais ça serait impensable dans le haïku parce qu'il y a un impératif. Donc, dans le haïku, ni érotisme, ni appel à l'autre. Même la mention d'un « toi » serait presque de trop dans le haïku, et ces quelques mots de Miloche que je crois que j'ai déjà cités, qui pourraient presque être un haïku, ne le sont pas parce qu'il y a toi. Toi, triste bruit de la pluie sous la pluie. Toi, triste bruit de la pluie sous la pluie. Toi, effectivement, réintroduit un imaginaire de la relation qui n'est pas compatible avec la discrétion haïku. Deuxième remarque, le haïku, c'est le monde rigoureux de l'indirect, qu'on peut aussi appeler, puisqu'il faut des mots anciens, la pudeur. Or, la pudeur ne s'exerce pas seulement à l'égard des choses du sexe, ou même plus généralement de l'affect, mais aussi à l'égard des compromissions du discours, à savoir les stéréotypes. Quoique très codé, le haïku fuit le stéréotype, c'est-à-dire ce dont on doit parler parce que c'est mythiquement important, bien vu, conforme rituel, le haïku essaye de ne pas en parler. Par exemple, pour les Japonais, il y a un objet mythique qui est à peu près, tout à fait, qui est à peu près inévitable. Dans toute la vie japonaise, il est inévitable de rencontrer, à la fois sur le plan géographique et sur le plan mythique, c'est le Fuji, le mont Fuji, Fujiyama, Monsieur Fuji. Eh bien, Basho, dans toute son œuvre, ne parle qu'une fois du Fuji, et encore, vous voyez de quelle façon il en parle, numéro 40, brume et pluie, Fuji caché, mais cependant je vais content. C'est-à-dire que la seule fois où il parle du Fuji, c'est pour dire qu'il ne le voit pas, et qu'il est dérobé. Je dirais, enfin, peut-être je m'exalte de peu de choses, mais je dirais que c'est ça l'écriture, une force finalement, une force très douce, mais une force finalement terrible et courageuse, de déception. Je pense que l'écrivain, c'est quelqu'un qui travaille sans cesse sur, disons, la corde raide de la déception. Troisième remarque, il y a dans le haïku, me semble-t-il, sinon abolition, parce que c'est peut-être impossible, du moins suspension, exténuation de l'idéologie. Sans doute beaucoup sous l'effet de la forme brève, mais pas seulement. On sait très bien que, par exemple, la maxime, qui est aussi une forme brève, est une forme qui peut être lourdement idéologique. Le haïku l'est très peu. Et, par exemple, dans 41, lune éblouissante, pour reposer l'œil deux ou trois nuages de temps en temps, eh bien, je sens et j'entends dans ce haïku une sorte de raréfaction, presque enivrante, tellement elle l'euphorise et le pacifie, une raréfaction de l'idéologie. On ne pourrait pas imaginer, dire, ceux qui ont avec le langage un rapport à la fois de désir, de jouissance et de douleur, qui aiment le langage et qui en souffrent. Et il y a de quoi dans le langage fournir ces deux affects, n'est-ce pas ? Eh bien, ceux-là ne peuvent concevoir le plus grand repos du langage que sous la forme d'une suspension de l'idéologie. Ce qui fait souffrir dans le langage, c'est finalement, probablement, profondément, l'idéologie. C'est parce que le langage n'arrive pas à ne pas être idéologie qu'il fait souffrir. Donc, par conséquent, il y a toute une utopie du langage qui, certainement, est très vivante dans la poésie, précisément. Une utopie qui essaye d'accomplir, de construire des moments de langage qui ne soient pas idéologiques. Eh bien, dans un haïku, comme celui que je viens de citer, personnellement, j'éprouve cette espèce d'euphorie de la suspension d'idéologie. Car le constat, la lune éblouissante pour reposer l'œil de deux ou trois nuages de temps en temps, le constat ici est si pur qu'il n'y a aucune vibration d'arrogance, aucune vibration de valeur, aucune vibration de sens en quelque sorte, et si je puis dire, même de religieux. Car le religieux n'est pas en soi idéologique, mais vous savez qu'il y tourne très vite, comme le lait tourne. Le haïku, en effet, c'est un assentiment, disons que le mot qui correspond bien au rapport du haïku et du monde, ça serait le mot assentiment, assentiment à ce qu'il est. Et il faudrait peut-être ici distinguer, vous direz c'est une subtilité, je vous répondrai avec Proust au nom, ah non, c'est une réalité. Distinguer entre des choses qui ont l'air très proches, mais donc qu'il faudrait justement distinguer, à savoir l'assentiment d'un côté, l'approbation, l'adhésion, l'acquiescement. J'avais soulevé ce problème il y a bien longtemps à propos d'une pièce de théâtre de mon ami Michel Vinavert, qui s'appelait Aujourd'hui, où les Coréens parlent il y a peut-être 20 ans, 5 ans, et qui était une pièce très belle et très nouvelle, et qui le reste dans la mesure où elle mettait apparemment en scène des problèmes, disons, politiques. Ça se passait au moment de la guerre de Corée, en Corée, et où précisément ce qui était mis en scène, c'était un complexe d'attitude qui relevait précisément de l'assentiment et non pas de l'adhésion. Eh bien, je dirais que la voie du haïku, c'est toujours la voie de l'assentiment, la voie de la réalité et non pas la voie de la vérité. Le haïku, c'est un art pour écrémer la réalité de sa vibration idéologique, c'est-à-dire de son commentaire, même virtuel. Peut-être que les plus beaux haïkus, ce sont ceux qui gardent comme une trace, comme une fragrance, un parfum, de cette lutte contre le sens. Par exemple, le 42, que je trouve très beau. Les fleurs tombent, il ferme la grande porte du temps et s'en va. Eh bien, nous sentons, n'est-ce pas, que dans ce haïku, nous semble-t-il, nous sommes retenus au bord de l'effet. Nous sommes retenus au bord d'un effet. Et c'est précisément ce que Blanchot appelle le neutre. Cette suspension de l'effet, c'est ce que Blanchot appelle le neutre. Et Blanchot écrit « Retenons que neutre serait donné dans une position. » Nous sommes ici, donc, dans le quasi, dans le presque, et par l'écriture, disons, quelque chose opère, mais ça n'est pas un effet. C'est ça qui est difficile de penser, que l'écriture, dans des moments absolument heureux et rares, comme certains haïkus, l'écriture a un pouvoir d'opération, elle opère quelque chose, mais ça ne passe pas par l'effet, c'est-à-dire par le théâtre, c'est-à-dire par l'hystérie. Évidemment, cette sorte de difficulté d'intenable du haïku par rapport au sens, à l'idéologie, ça a des rapports avec le zen. Et je considère que le haïku est une sorte d'incident, je reviendrai sur ce mot vers la fin du cours, non, 3 ou 4 samedi. Le haïku est une sorte d'incident, de pli menu, mal armé, pli contre pli. C'est un objet d'écriture, le pli, ce qui fait pli. Donc, une sorte d'incident, c'est ce qui tombe sur cadéré, tombé. Une sorte d'incident, de pli menu, une craquelure insignifiante sur une grande surface vide, la grande surface vide de la vie, par moments, des sortes de craquelures insignifiantes, ce sont des haïkus. Ou des satori, bien sûr. Enfin, qui est le satori, qui est probablement une sorte de constat mat du réel. Et je pense, dans cet esprit, à un apologue zen, je vais vous dire, Bodhidharma, qui est l'introducteur plus ou moins mythique du zen en Chine. On dit qu'à un certain moment de sa vie, il se serait retiré dans un monastère, et il y aurait passé 9 années en cellule à, ouvrez les guillemets, regarder le mur. Ce qui se dirait, je pense en chinois, Piquan, P-I-Q-A-N, regarder le mur. C'est-à-dire 9 années à regarder le mur. Ce qui veut dire, bien sûr, exclure de sa pensée tout vouloir saisir. Eh bien, je dirais que le haïku n'est pas, bien entendu, une conduite zen absolue. Ça n'est pas une conduite monastique. C'est une conduite qui est dans le monde et qui est dans la sensualité du monde. Mais, par rapport à cet apologue, le haïku, ce serait comme une éraflure légère sur le mur que regarde pendant 9 ans. Une éraflure légère sur le mur du non-vouloir saisir. Dans le haïku, je ne veux rien saisir, mais cependant, il y a comme une sorte de pli sensuel, l'assentiment à des éclats de réel et à des inflexions affectives, et c'est cela que j'appelle la discrétion. Le haïkiste, l'homme du haïku, c'est sans doute un bouddhiste imparfait, laxiste, peut-être rusé, disons un bouddhiste croisé de Tao. Je crois que je vais m'arrêter parce que le thème suivant est très différent. Alors on va s'arrêter 10 minutes et puis on reprendra pour le séminaire vers 11h30. Donc à samedi prochain pour le cours.